Levez la main, nos placeurs ont des bibles disponibles. Ils vont vous aider à trouver le passage de ce matin et puis on va le lire ensemble. Mais j'aimerais maintenant inviter les enfants à s'avancer, à venir ici à l'avant. On va avoir un temps de prière avant de les laisser aller. Je me souviens lorsque j'étais un enfant comme ça. Et Monsieur Gazdic, à l'église où j'allais, Monsieur Gazdic était pasteur. Et puis Monsieur Gazdic avait cette belle habitude de faire venir les enfants à l'avant pour prier pour eux avant qu'ils aillent pour leur leçon. Et puis je crois que c'est une bonne chose que les enfants soient ici, n'est-ce pas? Êtes-vous content d'aller entendre la parole de Dieu, entendre les histoires de Dieu? Ah oui, hey, vous êtes content. Êtes-vous content, les amis? Bon, parle-moi de ça. Êtes-vous content, vous, d'être ici pour étudier la parole de Dieu? Amen. Ouais, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, on va prier ensemble. Que Dieu puisse calmer nos cœurs, nos pensées, à nous comme aux enfants, pour qu'on puisse être prêts à entendre la parole de Dieu. On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci parce que tu nous as tant aimés en Jésus. Seigneur Jésus, tu nous as dit, et tu as dit au Père, « Je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux enfants et que tu les as cachées aux sages et aux intelligents. » Seigneur, comme on l'a vu dernièrement dans Matthieu, on a besoin d'avoir un cœur comme ces petits-enfants, simple, prêt à écouter ta parole afin de te recevoir. Et Seigneur, on sait que certainement c'est ton œuvre en nous qui fait ça. C'est ton œuvre qui vient changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair pour qu'on puisse entendre et recevoir tes paroles. Ma prière, Seigneur, ce matin, c'est que tu puisses mettre ta main sur ces enfants qui sont ici, qui vont entendre une histoire, qui vont entendre les merveilles de ta parole. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses préparer à travers ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, des hommes et des femmes qui vont marcher pour toi à ta gloire. Que tu puisses préparer à travers ces enfants d'autres personnes comme Alexandre, comme Michel, comme Annie, comme Bruno, comme Kim, comme Sébastien qui était là, comme Jean-Sébastien qui a dirigé la louange. Seigneur, tu es venu toucher nos cœurs lorsqu'on était des jeunes enfants, mais des fois plus tard. Mais Seigneur, viens utiliser ta parole afin que cette semence puisse porter du fruit pour toi jusque dans l'éternité. Seigneur, on te prie ces choses dans ton saint nom. Amen. Bon temps avec les moniteurs. Que le Seigneur vous bénisse, les enfants. Et nous, on va tourner ensemble dans Matthieu 19 pour lire le passage de ce matin. Matthieu 19, et je vais lire à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit des malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. »
Merci Alexandre. On va passer 2 semaines sur ce passage. Il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient retardé leur départ pour entendre la prédication sur Matthieu 19. On va passer 2 semaines sur le passage. Mais avant de se tourner vers les Écritures et puis même avant de prier pour demander à Dieu de venir bénir, simplement des choses à vous mentionner, certaines plus sérieuses, d'autres plus encourageantes. Un des chants qu'on a chanté parle de toute la simplicité. Je m'excuse, je vais descendre ça. Toute la simplicité d'un cœur qui se confie en Dieu et qui reste disponible à ce que Dieu donne, à ce que Dieu reprenne, avec une confiance. Et dans les dernières semaines, j'ai lu une petite biographie. Ça s'appelle « Ne crains rien ». Et c'est la biographie écrite par la mère d'un des membres de l'Assemblée ici, Samuel Flao. Je ne sais pas si Samuel est ici ce matin. Il est en haut? Il est avec les enfants. Le monsieur et Mme Flao étaient des missionnaires qui sont partis d'une région que vous avez vue au cinéma l'année dernière. Ils venaient du Pas-de-Calais, de la région des Ch'tis. Ils parlaient le Ch'timi. Et donc tout le nord de la France, le Pas-de-Calais. Et ils sont partis de là dans les années 50 pour s'en venir ici comme missionnaires. Et puis M. Flao maintenant est retourné auprès du Seigneur. Et Mme Flao a écrit sa biographie. C'est très court, c'est 100 pages. J'ai lu ça en 2 nuits d'insomnie. Mais ça a fait vraiment des belles nuits. J'ai été tellement béni. Cette sœur-là partage à partir de sa naissance son témoignage à elle. Comment elle est venue à la connaissance de Jésus-Christ dans des circonstances très difficiles, avec beaucoup, beaucoup d'humanité. Vous savez, on enseigne la parole de Dieu dans cette église, semaine après semaine, pendant l'année, on a des cours bibliques, et il y a beaucoup de choses qu'on voit sur le plan des principes. Lorsqu'on va vers une biographie qui a été écrite par un homme ou une femme de Dieu, nous voyons ces principes vécus, mis en action. Alors, je veux juste vous encourager. Une petite lecture d'été, je sais qu'on a pas mal de lectures de ce temps-ci, mais pour vous donner une idée, je vais recommander à Jade, ma fille de 11 ans, de le lire cet été. C'est vraiment très, très accessible et c'est très édifiant. Ne crains rien, je pense que la seule manière de vous le procurer, c'est d'aller voir Samuel. Alors, vous irez saluer son fils, puis vous pourrez vous procurer la biographie si vous avez ça à cœur. Maintenant, des requêtes de prière et des nouvelles. Tu donnes et tu reprends, on a chanté, eh bien, cette nuit, le Seigneur a rappelé auprès de lui un des serviteurs précieux de cette assemblée, M. Beau, le fondateur de l'Église. Oui, alors cette nuit, il est allé rejoindre son Seigneur dans la paix, dans le calme. Richard Talbot, le pasteur de l'Église de Saint-Bruno, puisque les Beaux, depuis quelques années, allaient à l'Assemblée de Saint-Bruno. Ils étaient revenus de la région de Sherbrooke pour s'approcher des enfants ici. Et M. Beau venait juste d'entrer dans une résidence puisque sa santé déclinait. Et dans les 2 dernières semaines, sa santé déclinait de plus en plus très rapidement. Et cette nuit, il est allé rejoindre son Sauveur dans la paix, dans le repos. Et lui est en train de vivre la félicité, sans l'ombre d'un doute. On vous tiendra au courant, d'accord? Évidemment, plusieurs vont probablement vouloir aller au service. C'est quand même le fondateur de l'Église. Priez pour Mme Beau. Priez pour Esther, pour les enfants, pour que Dieu console. Et en même temps, M. Beau a eu une fin de vie avec beaucoup de maladies. Alors certainement qu'il y a quand même un réconfort de savoir qu'il est dans la présence de Dieu. Mais c'est le fondateur de l'Église ici. Eux aussi, c'était des missionnaires. D'ailleurs, si vous lisez la petite biographie de Mme Flao, vous allez voir qu'ils se sont croisés en Ontario. C'est vraiment tous dans le même moment où les missionnaires arrivaient d'un peu partout pour venir prendre d'assaut la terre québécoise puis la gagner pour Christ. Alors, priez pour la famille Beau. J'ai une autre requête de prière à vous partager aussi, et je ne sais pas si Irène est ici ce matin. Irène Alexander, est-ce qu'elle est là? C'est probablement pas. Non? D'accord. Je vais être plus à l'aise de vous parler d'elle. Mais j'ai sa permission. Probablement que vous ne la connaissez pas. Irène est une missionnaire, une petite dame, menue, toute petite, avec un cœur d'évangéliste pour le Seigneur. Elle vient de l'Ontario. Elle est ici au Québec en mission. Et vraiment, elle prêche l'Évangile, elle annonce l'Évangile. Un cœur de missionnaire qui l'a amené même à aller chercher un travail, même si ce n'était pas nécessaire, pour pouvoir avoir plus de contact avec des Québécois et puis pouvoir en conduire au Seigneur. Et Irène s'est joint à l'Assemblée, là, peut-être 1 an et demi, parce qu'elle cherchait une église francophone. Évidemment, les gens avec qui elle établit des contacts, même si elle est d'origine anglophone, sont souvent francophones. Elle cherchait une assemblée où les conduire. Et donc, elle travaillait ici avec l'équipe de la Fusion. Maintenant, j'ai pas les détails exacts, mais Irène a appris là un certain temps qu'elle avait une maladie du foie. Et donc, elle est en attente actuellement d'une greffe de foie. Irène a mon âge, là. C'est une jeune femme dans la fleur de l'âge. Et puis là, elle attend une greffe de foie. Alors, elle est à la maison, affaiblie, pas dans sa foi. La maladie peut frapper son foie physique, mais le Seigneur soutient sa foi et vraiment elle a le cœur en paix à travers cette épreuve-là. Et ces requêtes qu'elle m'a partagées, c'est qu'on prie pour qu'à travers sa maladie, Dieu se serve de cela pour l'avancement de l'Évangile et que Dieu dirige les médecins. Ça, ce sont ces deux requêtes. Et peut-être qu'au cours des prochaines semaines, des prochains mois, on vous laissera savoir si certains d'entre vous veulent donner un coup de main, parce qu'évidemment, elle est ici comme personne seule, dans son appartement à Longueuil. Alors, il y aura toutes sortes de petits coups de main qu'on pourra lui donner. Mais comme elle est missionnaire, elle n'a pas d'église locale ici, sinon cette assemblée qui va intercéder pour elle. C'est sûr que là d'où elle vient, il y a des gens qui prient pour elle, mais ici au Québec, soyons sa famille et prions pour elle, Irène Alexander. D'accord? Alors, on va aller tout de suite dans la prière avant de se pencher sur la parole de Dieu. Père éternel, je veux te bénir pour cette assemblée. Chacune des personnes ici ce matin qui s'est levée et qui est venue dans la communion des saints pour élever ton nom, pour chanter tes louanges. Quelques-uns peut-être à tâtons en cherchant ce Dieu existe-t-il? La Bible est-elle vraiment parole de Dieu? Je te bénis, Père, pour chacune des personnes qui sont ici. Certaines d'entre elles sont venues de reculons. Tout leur disait de rester chez eux, chez elles. Soit à cause de la maladie, soit à cause des épreuves, soit en raison du péché qui les attire et avec lequel ils luttent intensément ces temps derniers. Seigneur, je veux te bénir pour chacune des personnes dans cette salle et dans cette église. Et ma prière, c'est que tu viennes nous rencontrer, Père. La musique, les instruments, un prédicateur, un bâtiment ne sont rien, Seigneur, sans l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs. Nos cœurs ont besoin d'être transformés, formés à l'image de Christ. Nous sommes disponibles ce matin pour t'entendre, Seigneur. Parle-nous. J'aimerais te prier, Père, pour la famille Beau. Quel témoignage à ta gloire, Seigneur. Un charpentier, un homme simple, comme il aimait à le dire, sans grande instruction. Tu t'es servi de lui, Seigneur, pour déposer un fondement ici. Le fondement des apôtres, le fondement de ta parole. Et nous sommes, Seigneur, ses héritiers spirituels, ses fils et ses filles, ses petits-fils et ses petites-filles. Nous te bénissons pour M. Beau, Seigneur, pour Mme Beau, pour les sacrifices immenses qu'ils ont faits, pour la foi que tu leur as donnée, pour la vision de partir, de quitter leur terre natale, Seigneur. Dans des années difficiles au Québec, où on était persécutés et méprisés pour la foi, où il n'y avait aucune tolérance pour un protestant francophone. Bénis cette famille, Seigneur. Qu'il soit une source d'inspiration pour nous, que d'autres se lèvent, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, pour Irène, qui est une autre missionnaire comme les Beaux. Et encore plus, Seigneur, célibataire. Unique par choix pour le royaume. Sois béni, Seigneur, pour sa foi. Pour sa belle foi à travers l'épreuve. Bénis Irène Alexander chez elle ce matin. Rencontre-la, fortifie-la, Seigneur. Bénis son témoignage. Accorde-lui ce qui lui apporte le plus de joie, voir des âmes passer de la mort à la vie spirituelle. Seigneur, j'aimerais te prier pour Melody Francis, qui est missionnaire au Honduras. Les temps ne sont pas faciles là-bas. Protège-la, Seigneur. garde ces petits-enfants que tu lui confies. Sois, Seigneur, ce grand protecteur des veuves et des orphelins. Seigneur, j'aimerais te prier pour tous ceux et celles qui vont aller dans des camps chrétiens cet été, au camp des Bouleaux, au camp Patmos, à Bethel, dans toutes sortes de camps chrétiens. Plusieurs familles ce matin se dirigent pour un camp de famille. Viens les rencontrer cette semaine. Ils ont fait ce choix de mettre de côté, Seigneur, d'autres options pour aller se placer pendant une semaine dans la présence des frères et sœurs, sous le ministère de ta parole. Viens les bénir, Seigneur. Viens les rencontrer. Et qu'ils nous racontent en revenant tout ce que tu leur auras dit, Seigneur. Et nous parler ce matin. Garde-nous cet été pendant nos vacances. Envoie-nous partout, Seigneur, au Québec et un peu partout sur la terre pour prêcher Christ, pour être des témoins. Enfin, Seigneur, je te demande d'être avec mon cœur. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Aide-moi à prêcher ta parole avec courage, avec douceur, avec la délicatesse qu'avait Jésus. C'est en son précieux nom que je te prie. Amen. Matthieu 19, un passage qu'on pourrait dire pas facile, en même temps pas si difficile à comprendre, plus difficile à vivre, je dirais. On va passer deux semaines sur le passage. Dans les deux semaines, je vais exposer en gros ce texte. Mais je tenais à mentionner quelque chose, et pour moi c'est important. D'abord, il faut que vous sachiez, je pense que c'est bon de le mentionner, je viens d'un foyer brisé par le divorce, d'accord? Un foyer qui avait, dont les deux parents avaient fait profession de foi. Les deux parents s'étaient fait baptiser, avaient passé par les eaux du baptême. Les deux parents ont pris des cours de Sambec. Et pourtant, encore aujourd'hui, je prie pour l'un des deux afin qu'il connaisse Jésus-Christ, même s'il y avait eu une profession de foi. C'est peut-être pas la bonne terre à ce moment-là. Alors, tout ce que je voulais dire par ça, c'est je vais exposer le texte. Je ne vais pas exposer tout ce que les Écritures disent sur le mariage, le divorce, comment on doit accompagner quelqu'un qui traverse des choses comme ça aussi, comme le divorce. Je ne m'en vais pas dans tous ces détails-là. Alors, s'il y a des gens qui ont l'impression que, un peu froidement, j'expose le texte, soyez assurés que je sais. Même si nous ne l'avons pas vécu, Esther et moi, on a un mariage béni, je sais ce que c'est. Et donc, il n'y a pas de condescendance de ma part ou de dureté, d'accord? Mais en même temps, la parole de Dieu est magnifique. Les projets de Dieu sont magnifiques et ils méritent d'être exposés, afin que nos cœurs et nos voix soient réformés selon la parole de Dieu. Amen? Amen. La grande question dans le passage, avant de regarder des détails ou des choses comme ça, la grande question dans tout ce passage se résume à la question du problème du cœur de l'homme et le plan de Dieu. Tout ce que je vais dire, tout ce que je vais expliquer est à la lumière de ça. Si vous voulez résumer la grande idée derrière l'idée de ce texte, le cœur de l'homme et le plan de Dieu. Le passage est relativement simple à comprendre. On voit l'argument. Si vous êtes un peu familier avec les Écritures, si vous lisez la Bible depuis quelques années, si vous avez regardé des questions comme celle-là, le passage est relativement simple. Je veux dire, Jésus nous ramène au plan de Dieu, puis il entre en contestation avec les pharisiens, tout ça. À part pour un ou deux versets où il y a vraiment certaines difficultés d'interprétation pour comprendre ce que Jésus est en train de dire par rapport à d'autres textes, puis là, on veut remettre tout ça ensemble, puis voir ce que ce texte-là est en train de dire par rapport à l'autre, puisque que l'idée de Dieu se tient d'un couvert à l'autre. À part un ou deux versets, l'idée générale de ce passage est relativement simple. Ce qui rend le passage difficile, et je suis fermement convaincu de ce que je vous dis là, c'est que nous ne voulons pas l'entendre. La difficulté n'est pas dans l'exégèse, dans l'interprétation, dans l'analyse de ce que Jésus est en train de dire. La difficulté se trouve dans le fait que nous ne voulons pas entendre ces choses. Nos cœurs ne sont pas prêts à entendre ce que Jésus a à dire. Voyez-vous, tout ce que Jésus fait dans le passage ici, c'est qu'il nous ramène au plan de Dieu. Si vous avez été attentif tout à l'heure à la lecture d'Alexandre, si vous connaissez le passage, il y a des docteurs de la loi, d'éminents spécialistes de l'Ancien Testament, des pharisiens qui passaient des heures à étudier le texte, à essayer de comprendre ça, à étudier la loi juive. Et Jésus leur dit, « N'avez-vous pas lu? » Ceux qui pensent que Jésus est jamais ironique, relisez ces lignes-là. Bien sûr, ils avaient lu des milliers de fois. « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement? » Et tout ce qu'il fait, c'est qu'il nous ramène au plan de Dieu. Il nous ramène au commencement, à l'origine, au design que Dieu avait. Jésus dit au verset 8 que c'est la dureté de votre cœur, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis le divorce. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Le divorce n'était pas dans le design de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est relativement simple. Maintenant, Jésus dit, à cause de votre cœur sclérosé, votre cœur dur, vous n'êtes pas prêt à entendre ces choses. C'est ce qu'il dit au verset 8. Matthieu 19, 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, de divorcer, de leur remettre une lettre de divorce. Au commencement, il n'en était pas ainsi. On est en train de faire référence à un passage dans l'Ancien Testament, Deutéronome 24, où Moïse va légiférer. Moïse va intervenir. Il y avait des divorces qui avaient cours. Et Moïse va encadrer ce qui est en train de se faire là. Entre autres, une des choses qu'il fait dans ce passage-là, très très simple, il dit bien, si un homme divorce de son épouse, il va lui donner une lettre de divorce. Et cette femme peut aller se remarier. Parce qu'il y avait toutes sortes d'abus incroyables qui se passaient et les hommes jouaient avec ce pouvoir qu'ils avaient. Moïse a permis, a encadré, a légiféré autour de quelque chose qui était là. Maintenant, ce qui est intéressant dans le passage de Matthieu 19, c'est le mot que Jésus utilise pour la dureté de votre cœur. Regardez le verset 8 lorsqu'il dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur ». Le mot grec qui est utilisé ici, c'est « sclérocardia ». Sclérocardia, un cœur sclérosé. C'est ça que ça veut dire. Un cœur endurci. Vous savez ce qui se produit lorsque une artère ou un organe commence à se scléroser? Lorsqu'une artère commence à se scléroser, progressivement, elle va s'endurcir. Ce sont les tissus qui se multiplient, qui s'épaississent, qui s'endurcissent, qui perdent de leur souplesse, jusqu'à ne plus servir à rien. C'est ça une sclérose. Sclérocardia. Des cœurs sclérosés, des cœurs endurcis, qui perdent leur souplesse et ne servent plus à rien. Maintenant, il faut savoir que le cœur, dans le langage biblique, c'est cet endroit intime. Chaque fois que vous allez croiser dans l'Ancien Testament, spécialement dans le livre des Proverbes, mais un peu partout, puis Jésus revient beaucoup avec cette idée, il va parler du cœur. On parle de cette région intime à l'intérieur de nous, où nous prenons nos décisions les plus secrètes. C'est le domaine de nos émotions, de nos valeurs, de notre vision du monde. C'est du cœur que viennent les pensées, les décisions, les paroles, les émotions. Il ne s'agit pas du cœur physique. Et pourtant, on a gardé dans notre langage des expressions du genre « je t'aime de tout mon cœur ». Ça veut dire « je t'aime de ce que j'ai de plus intime, de plus profond ». Ça vient du cœur. Ça vient de ce que j'ai de plus vrai. Tu n'auras pas plus vrai que ça. Ça vient de mon cœur. Et Jésus dit aux pharisiens dans ce passage, « Votre cœur est dur, il est sclérosé. » Pour comprendre ce que Jésus dit ici, il faut retourner au commencement. Il faut retourner à la création, à l'origine, au plan de Dieu, au design de Dieu. Pas seulement pour comprendre ce que Dieu voulait avec le mariage, mais pour comprendre ce que Jésus est en train de dire ici lorsqu'il parle de ce cœur dur. Lorsque Dieu créa toutes choses, il créa l'homme et la femme pour qu'ils s'unissent et deviennent une chair. Un couple, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 19. Lorsqu'il retourne au commencement, il dit, verset 4, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. » Un. Alors, au début, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés pour qu'ils quittent père et mère et qu'ils deviennent un, une nouvelle unité, différent, mais semblable. Complémentaire. Différent, mais semblable. Donc, complémentaire. Un peu de la même manière que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont différents et un. Bon, pas jusque-là, on s'entend. Mais c'est quand même la même image qu'on peut prendre. Différent, mais semblable. Un. Une nouvelle entité. C'était un plan magnifique que Dieu avait conçu. Encore aujourd'hui, lorsqu'on raconte des histoires à nos enfants, on pourra souvent les terminer avec « Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. » Hey, ça ressemble pas mal à Genèse 1, ça. C'est encore bon pour les enfants, ce rêve-là. Bon, peut-être que tu vas le perdre en vieillissant, mais pour les enfants, pourquoi pas? C'était un plan magnifique que Dieu avait conçu. Deux êtres qui s'aiment, écoutez ça, et qui ne se lassent jamais de l'autre. Est-ce que c'est pas beau? C'est pas pour ça qu'on a été conçus. Pour vivre un amour qui dit jamais, « Ah, sais-tu, je suis tanné. Je sais plus. J'ai le goût de changer de char. De changer d'amour. De changer de maison. » Peut-être que je suis dû pour changer. Changer d'enfant, pourquoi pas tant qu'à y être? Non, 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 pas les enfants. Les enfants, c'est... Non, pas les enfants. Mais l'auto, la maison, puis peut-être autre chose aussi. Ça sonne étrange, dit comme ça, non? Le plan était parfait, il était magnifique. Deux êtres qui s'aiment et ne se lassent jamais l'un de l'autre. Deux êtres qui passent leur vie à se découvrir, à se connaître, à construire ensemble. C'était ça le plan de Dieu. Et c'est simple, ça coule de source. Et si tu prends le temps de regarder la nature, c'est tellement beau. Au moment où Dieu créa l'homme et la femme, nos parents à tous avaient un cœur de chair. Nous étions au temps de l'innocence humaine, pourrait-on dire. Ils avaient un cœur tendre, ils avaient un cœur prêt à recevoir le plan de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de retourner au commencement aussi, pour comprendre ce que Jésus est en train de faire ici. Au moment où Dieu conçoit ce plan, au moment où Dieu crée l'homme et la femme ont ce cœur de chair, qui est prêt à recevoir le plan de Dieu. Et il est beau, il est sensé, il fait plein de bon sens ce plan-là. Et ils ont un cœur pour recevoir ce plan. Pensez-y, quand Dieu a présenté Ève à Adam, il me semble qu'Adam n'a pas dit quelque chose comme « C'est pas mal cute, on pourrait s'essayer ensemble. » Qu'est-ce que tu dirais qu'on se trouve un petit coin en dessous d'un arbre, puis on installe ça pour notre maison, puis on fait un bout ensemble? On va voir si ça marche. Il y a déjà des cyniques qui disent, « Ouais, mais c'est pas comme s'il y avait le choix, tu sais. Il était deux. T'as mieux de marcher. » Non, je comprends. Je comprends. Mais ils avaient un cœur de chair à ce moment-là pour recevoir ça. Adam ne s'est pas posé la question « Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre option? » C'était celle que Dieu lui donnait. D'ailleurs, on pourrait s'étirer juste sur la question qu'il n'y avait pas de choix. Et on pourrait réfléchir ensemble si le choix est tellement déterminant dans le succès d'un mariage ou si ce n'est pas le fait de marcher selon le plan de Dieu. En tout cas, dans leur cas, c'est un beau mariage arrangé. Et c'était un bon plan. Lorsque Dieu les présente l'un à l'autre, ils comprennent qu'ils doivent s'unir pour la vie parce qu'ils sont différents et semblables. Ils deviennent une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais une seule personne. C'était ça le plan de Dieu. C'était simple. C'était un plan magnifique. Et il a été donné avant la chute de l'homme, avant que le péché n'entre dans l'histoire, au temps de l'innocence humaine, le bon vieux temps. Vous savez, quand les vieux disent « le bon vieux temps », ils n'ont pas connu le bon vieux temps, je peux vous le dire. Il faut être vraiment vieux pour avoir connu le bon vieux temps. Ça, c'était le bon vieux temps. C'était avant que le péché vienne tout déformer puis tout gâcher. C'était ça, le bon vieux temps. Où on pouvait recevoir avant le péché, parfaitement, innocemment, avec un cœur de chair, le plan de Dieu. Dieu créa l'être humain, il lui donna tout ce qu'il fallait pour qu'il soit heureux. Et puis il lui dit, « Regarde, je te donne ici, j'ai pourvu à tout ce qui est nécessaire à ton bonheur. Maintenant, je te donne toute liberté entière. Seulement, je te demande une chose, de respecter ce pourquoi tu as été créé. Glorifier Dieu et être heureux en glorifiant Dieu. » C'est tout. Le Créateur a créé pour une raison, le glorifier, et notre bonheur se trouve à entrer dans son plan. C'était simple. Dieu dit alors à l'homme, « Sache cependant que si tu décidais de te rebeller et de rejeter ce pour quoi tu as été créé, tu mourrais. » Tu mourrais. Si tu décides de te rebeller contre ton Créateur, tu mourras. Et remarquez ici qu'on n'est pas dans l'image du rebelle hollywoodienne. Pendant que je réfléchissais à ça, je me disais, « Ouais, mais il y en a qu'on vit à une époque où la culture, la gloire du rebelle est tellement présente. Il y a tellement de films qui sont faits, qui sont bâtis sur cette idée-là. » Le bon, c'est le rebelle. Et on le trouve même dans la pensée populaire. Si vous lisez un peu la philosophie, vous allez trouver cette idée qu'il nous faut s'émanciper d'un Dieu contrôlant. Puis c'est dans la mesure où tu vas te libérer de ce Dieu-là, tu vas pouvoir devenir tout ce que tu es. C'est faux. C'est vrai que dans certaines histoires, aujourd'hui, on peut trouver que le bon, c'est le rebelle, c'est parce qu'il est sous la puissance d'un méchant. C'est vrai que parfois, on va trouver dans nos histoires, dans l'histoire de nos pays, des moments où une rébellion a servi à faire le bien. C'est vrai. Mais c'est parce que le pécheur, le méchant, l'abuseur domine. On est en train de parler de libération. Comment peux-tu te libérer de celui qui est bon et qui veut ton bien? Comment peux-tu te libérer de celui qui est parfaitement saint, qui t'a conçu? Je vais donner une comparaison vraiment bébête. Vous savez que j'aime les cappuccinos, je l'ai déjà dit ici. Cherry Blossom, oui, c'est vrai, j'ai parlé des Cherry Blossom dernièrement. J'ai pas de machine à Cherry Blossom, fait que l'illustration fonctionnerait pas. Allons-y avec les cappuccinos, OK? Mais cappuccino Cherry Blossom, ça commence pas mal à être le top. Pas mal le top. Peut-être espresso, espresso Cherry Blossom. Ma machine à espresso, elle sert à faire des espressos. C'est ça qu'elle sert. Et si je décidais demain matin qu'elle allait servir à broyer des légumes et qu'au lieu de mettre de l'eau dans mon réservoir à eau, je mettais des légumes dans mon réservoir à eau, tout ce que je ferais, c'est que je la détruirais. Si elle décidait de s'émanciper et que demain matin, elle devenait une Ferrari au lieu d'être une machine à espresso, elle ne tiendrait pas la route à côté d'une Ferrari. C'est de cette rébellion-là dont on parle ici. L'homme ne s'est pas émancipé d'un Dieu machiavélique et contrôlant. L'homme s'est rebellé contre quelqu'un qui voulait son bien, qui l'avait conçu, qui connaissait parfaitement ce qui était bon pour lui et qui ne pouvait concevoir que du bien pour lui. C'est de cette rébellion-là dont on parle. Et cette rébellion-là ne peut produire que le mal. Premier péché, c'est quoi, la rébellion? Deuxième, je dirais le mensonge, lorsqu'ils vont se cacher. Troisième, le rejet. Adam, tout un chef, le bonhomme, qui rejette sa femme puis qui essaie de jeter le blâme sur elle en disant, c'est elle. Oh, t'es un modèle, mon grand. Quatrième, c'est quoi, le meurtre? Un fils, un frère qui tue son frère. C'est une belle émancipation. C'est une belle libération, ça. Dieu leur avait dit, « Je vous ai créé, le design est parfait, votre bonheur est là, à portée de main. Vous avez été conçus pour le bonheur. Votre bonheur se trouve à me glorifier et à entrer dans ce plan-là. À partir de là, vous avez la terre, construisez ce que vous voulez, c'est un gros jardin, amusez-vous, ressemblez-moi, devenez des créateurs, inventez toutes sortes de choses. » Mais ne sortez pas de mon plan. Soyez humble, obéissant. Autrement, vous mourrez. Autrement, vous mourrez. On connaît la suite de l'histoire, puisque nous sommes tous des dignes héritiers d'Adam et d'Ève. De par nature, nous vivons les conséquences de ça jour après jour dans nos relations de couple, dans nos relations avec les gens, personnellement dans nos vies. Nous vivons les conséquences de ça. Dieu avait dit, si vous péchez, vous mourrez. Vous mourrez vraiment. Vous commencerez à vieillir physiquement. Votre vie trouvera une fin sur cette terre. Et vous savez que des chercheurs comprennent pas pourquoi on vieillit. Vous avez lu ça dans les journaux dans les 2-3 dernières années? Quelques articles que j'ai vus là-dessus. Les spécialistes de la génétique sont en train d'essayer de comprendre c'est quoi, comment ça se fait qu'à un moment donné, il y a un processus d'autodestruction. Vous mourrez. Vous mourrez. Vraiment, physiquement, votre vie va s'écourter. Dieu ne pouvait pas laisser l'homme aller ainsi. Quelques jours, quelques années, le premier meurtre était commis. Mais vous mourrez aussi intérieurement, d'une manière plus profonde encore et plus sérieuse encore. C'est rien la mort physique. Vous mourrez aussi intérieurement, immédiatement, d'une mort spirituelle qui vous frappera. Votre cœur de chair docile, heureux dans le plan que j'ai conçu, se transformera en cœur de pierre. Votre cœur vivant, votre cœur de chair deviendra sclérosé, deviendra un cœur de pierre. Et depuis, le principe du péché coule dans nos veines. Nous naissons pécheurs. Je sais, ils sont cute, je sais. J'en ai eu des enfants. Nous naissons pécheurs. Laisse-lui juste le temps que les cellules fassent quelques connexions pour trouver comment l'exprimer, ce ne sera pas long. Nous naissons pécheurs. Depuis ce temps, le principe du péché coule dans nos veines. Nous l'avons hérité de nos parents, de nos premiers parents. Et malgré le fait que le Créateur, que la création demeure si belle, si magnifique, malgré le fait qu'il n'y a rien de plus beau qu'un petit enfant, un beau bébé, nous naissons tous pécheurs. Parfois, on s'arrête puis on regarde un coucher de soleil, on regarde un petit enfant, les Ladouceurs vont arriver avec leur bébé, puis ben, voyons donc, Yannick, il ne te ressemble pas. Il a un beau cœur, lui, Yannick. Malgré cela, nous naissons tous pécheurs, ce principe coule dans nos veines, il attend juste le moment de pouvoir s'exprimer. Nous naissons tous affectés par cette mort spirituelle, nous avons un cœur de pierre. C'est ça que nous avons. Ce matin, j'ai décidé de faire une leçon de choses. On est en été. Vous savez c'est quoi les leçons de choses, non? C'est une pierre. On peut la laisser tomber par terre, mais Denis, avec le comité de bâtiment, ne m'aimeront pas. C'est une pierre. À peu près la grosseur de mon cœur. Hein? C'est ça qu'ils nous ont dit. Notre cœur est à peu près de cette grosseur-là. Cette pierre-là est dans mon bureau. Et elle représente bien le cœur que j'ai à partir du moment où je pêche. Un cœur dur. qui ne peut pas entrer dans le plan de Dieu, qui ne peut pas marcher selon la voie de Dieu. C'est un cœur qui est sclérosé et c'est avec celui-là que nous naissons. Sans l'intervention de Dieu, le plan de Dieu nous est étranger. Parce que notre cœur est mort à l'intérieur. Et je le sais, vous vous dites, certains d'entre vous, « Yannick, tu ne me connais pas. Je suis une personne sensible. Je suis une personne qui est capable de faire de belles choses. J'ai toujours été même comme ça, même avant de connaître Christ. Je connais des gens qui ne sont pas chrétiens, sont capables de faire des belles choses, des actes d'une douceur, d'une tendresse, d'une générosité incroyable. C'est vrai. Voyez-vous, nous continuons à ressembler à Dieu. Même si le péché nous a affectés, même si la mort spirituelle nous a affectés, nous continuons à ressembler à Dieu quand même. Et il y a des choses que nous allons faire par lesquelles nous allons ressembler à ce Dieu bon et généreux. Mais nous sommes tous pécheurs. Et la meilleure manière que je peux vous l'illustrer, de manière concrète, pensez à toutes ces fois où vous savez ce qui serait la bonne chose, la chose noble à faire, et vous ne la faites pas. Pourquoi? Toutes ces fois où vous voyez une situation et la pensée vous vient, voici ce qui serait la bonne chose à faire. Et finalement, vous ne le ferez pas. Puis après, vous allez vous sentir coupable. C'est le principe du péché qui coule dans nos veines. Alors parfois, nous ressemblons à Dieu dans nos actions. Souvent, nous ne lui ressemblons pas. Et ça, c'est vrai pour tous les êtres humains. Qu'on soit religieux ou qu'on soit sans Dieu, qu'on soit religieux ou qu'on soit athée, tout le monde a hérité de ce cœur de pierre. La mort spirituelle a atteint tous les hommes, tous les êtres humains. Ça va se manifester de manière différente. Chez celui qui se dit athée, chez celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu et qu'il n'y a pas de loi de Dieu, il a un cœur comme ça. Comment ça va se manifester? Il est sa propre loi. Parfois, dans un geste, il va ressembler à Dieu. Souvent, c'est son cœur de pierre qui va s'exprimer. Il est sa propre loi. Ses passions sont sa propre loi. Appliquées dans un contexte comme le mariage, je pense que je suis dû pour un changement de voiture. Maintenant, remarquez que celui qui est religieux, celui qui a comme idéal de plaire à Dieu, celui qui est religieux aussi a un cœur de pierre. Regardez les pharisiens ici. Qu'est-ce qui va se passer avec la personne religieuse? La personne religieuse a un idéal. Son idéal, c'est qu'elle voudrait suivre la loi de Dieu, satisfaire Dieu, puis se présenter un jour devant Dieu en disant, « Regarde, c'est pas pire, hein? Est-ce que je peux rentrer? J'ai fait une belle job. » Mais elle a un cœur de pierre. Pareil comme celle qui n'est pas chrétienne, celle qui ne marche pas avec Dieu, celle qui ne croit pas dans l'existence de Dieu. La personne religieuse a un cœur de pierre aussi. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va toujours chercher à utiliser la loi de Dieu, utiliser la parole de Dieu pour pouvoir satisfaire ses passions d'une manière ou d'une autre. Elle va toujours chercher à être en périphérie, pas au cœur de la volonté de Dieu, plutôt sur le strict minimum. On vient juste de passer, voilà quelques semaines, 3 semaines dans Matthieu 18. Regardez la question que Pierre pose à Jésus dans Matthieu 18, 21. Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » La personne religieuse ne cherche pas le cœur du plan de Dieu. Elle veut manipuler la parole de Dieu pour se justifier. Alors la question de Pierre, c'est simple. Seigneur, je suis un homme religieux. Je crains Dieu. Je prends des notes. Michel m'a offensé 3 fois le mois dernier. Bon, OK, il m'a demandé pardon 3 fois. Quand je me rends à 8, est-ce que je peux devenir le Dieu justicier maintenant? Ou est-ce que je dois encore pardonner? C'est la question d'une personne religieuse. Et la réponse de Jésus, c'est non. Sois comme Dieu. Pardonne-lui aussi souvent que tu veux que Dieu te pardonne. Le plan de Dieu. Regardez ce que les pharisiens sont en train de faire dans le passage ici. Oui, on comprend, il y avait un plan au début, tout ça, mais tu sais, bon. Quelle sorte de divorce pourrait être correct, être selon le plan de Dieu? En fin de compte, c'est ça leur question. Quand est-ce que ça serait comme dans le plan de Dieu? C'est ça leur question. C'est quoi la limite extérieure? Et tout ce que Jésus fait, c'est qu'il dit non, je vais vous ramener au cœur du plan de Dieu. Maintenant, quand je dis toutes les personnes religieuses, regardez les disciples tout de suite après. Au verset 10, je suis dans Matthieu 19. Les disciples assistent à cette conversation, à cet échange entre eux. Et regardez ce que les disciples disent ici. Ces disciples lui disent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Quoi? Tu es en train de me dire que la seule clause d'exception qui serait correcte, c'est s'il y a vraiment un cas d'adultère. Je ne peux pas changer de voiture parce que je suis fatigué. C'est pas avantageux de se marier. C'est un cœur dur. C'est un cœur de pierre qui ne demande pas, « Seigneur, c'est quoi ton plan? Dis-moi ton plan, je veux entrer dans ton plan. Je veux être au cœur de ton plan, Seigneur, pour te glorifier, pour te ressembler. » C'est un cœur dur. Et tout ce que Jésus fait dans le passage ici, bien franchement, c'est ça qu'il fait et c'est ce que Jésus fait souvent, à plusieurs reprises dans les évangiles. Il nous ramène au plan de Dieu. Il a été dit que si tu vas vers la femme de ton prochain, tu commets un adultère. Moi, je te dis que si tu fermes les yeux pour la convoiter, c'est déjà un adultère dans ton cœur. Il a été dit que si tu vas vers ton prochain pour lui enlever la vie, tu es un meurtrier. Moi, je te dis que si tu l'haïs dans ton cœur, déjà tu as commis un meurtre. Quand Dieu a donné les 10 commandements, est-ce que l'idée c'était « Tuez-vous pas, mais haïssez-vous toute la gang. Vous allez être dans mon plan. » C'est ça l'idée? Quand Jésus prend le temps de résumer toute la loi et les prophètes à 2 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qu'il fait? Eh boy, qui a rend difficile. Parce qu'avec ces 2 commandements-là, tu peux répondre à peu près à toutes les questions de tes actions, des gestes que tu as posés. Mais tu vas toujours être dans le cœur du plan de Dieu. C'est exigeant. C'est très exigeant. Et Jésus, à plusieurs reprises, fait ça à travers les évangiles. L'homme, pendant toute cette période de l'histoire d'Israël, cherchait naturellement, suivait son penchant naturel. Et généralement, Israël est en train de se servir de la loi de Dieu pour essayer de manipuler Dieu et essayer de satisfaire de manière minimale aux principes de Dieu. Cherchait comme un bon fiscaliste. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la loi? Comment on peut passer ici, là, puis on ne se fera pas taper ses doigts? Ça, c'est le religieux. Celui qui est sans religion, celui qui est sans Dieu, il est sa propre loi. Quelle est la différence entre les deux? 2 cœurs sclérosés et morts qui ne cherchent pas à marcher au cœur du plan de Dieu. C'est à cette discussion-là qu'on assiste ici dans Matthieu 19. Comprenez pourquoi c'est difficile à entendre et à recevoir. Alors, je retourne au début. L'homme et la femme pêchent. Dieu avait promis, il avait mis sa parole, qu'ils mourraient en pêchant, et ils sont morts. Un cœur de pierre a pris la place de leur cœur de chair. Maintenant, replaçons le passage de Matthieu 19 dans l'histoire des Saintes Écritures. Jésus a été envoyé pour venir sauver Israël de ses péchés. N'est-ce pas? C'est ça le début de Matthieu. Emmanuel, il est venu pour sauver Israël de ses péchés. Les prophètes dans les temps anciens avaient annoncé la venue d'un Messie un jour qui viendrait sauver Israël et sauver des gens de toutes les nations de la terre de leurs péchés. Lorsque Jésus a continué son chemin jusqu'à la croix et qu'il est mort pendu au bois versant son sang, il a été élevé sur cette croix comme le serpent d'airain dans le désert avait été élevé au moment où Israël avait péché. Ils étaient sous la malédiction de Dieu. Ils s'étaient donné une idole et Dieu avait envoyé une malédiction qui les conduisait à la mort. Il y avait des serpents qui les mordaient et ils mouraient de cela. Dieu a dit, fais un serpent d'airain, monte-le sur une pôle et puis affiche-le devant tout le monde. Tous ceux qui regarderont sur un acte de foi, simplement lever les yeux, seront sauvés. Jésus-Christ est venu pour le pardon de nos péchés en étant élevé sur ce bois. Il venait mourir pour nos péchés, afin que nous puissions, en regardant la croix, être déclaré juste. Héritier d'Adam et Ève, pécheur, héritier de Jésus-Christ, justifié, effacé de mes fautes, complètement. Maintenant, Jésus ne venait pas seulement pour qu'on soit justifié de nos fautes. Il venait aussi pour mettre au monde une nouvelle création. Ézéchiel 36, 26, vous n'aurez pas le temps de tourner. Le prophète Ézéchiel avait annoncé ceci. Écoutez bien les paroles. Je sais que je peux vous donner l'impression d'être loin de Matthieu 19 ce matin. Il faut comprendre ce que Jésus fait avec la loi constamment dans les évangiles, et c'est ça que je suis en train de déposer ici ce matin avec vous. Ézéchiel 36, 26. Le prophète dit, en fait c'est Dieu qui dit par la bouche de son prophète, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Un jour viendra où je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, il n'est pas venu seulement pour mourir sur la croix afin que nous soyons pardonnés de nos péchés, justifiés de nos fautes, pour qu'un jour, lorsque nous entrerons dans sa gloire, nous commencions une vie nouvelle. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il est venu mourir sur cette croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Et au moment de son départ, il a dit à ses disciples, « Bougez pas les boys. Restez ici. Dans quelque temps, je vous envoie mon esprit. Il va venir faire sa demeure en vous. Jamais il ne va vous quitter. » Dans Jean 3, Jésus parle de la nouvelle naissance, d'une naissance nouvelle, d'un moment où il est donné à un homme, à une femme, d'être libéré de son cœur de pierre, pour avoir un cœur de chair, un cœur qui peut recevoir la parole de Dieu, les préceptes de la parole de Dieu. Est-ce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Est-ce qu'un jour, tu es tombé à genoux, tu t'es tourné dans la prière vers ton Créateur et tu as dit, « Père, voici ce que j'ai à la place du cœur. Depuis quelque temps, je lis ta parole, je vois tes préceptes, puis c'est impossible pour moi. » Et si je me présente devant toi au ciel, dans cet état-là, tu ne pourras pas me recevoir parce que c'est un cœur de pierre que j'ai. J'ai besoin de recevoir ton esprit. J'ai besoin d'être libéré de ce cœur de pierre. Est-ce que tu as levé tes yeux vers la croix de Jésus-Christ, plaçant toute ta foi dans l'œuvre qu'il a fait à la croix, versant son sang pour tes péchés? Si tu l'as fait, il a placé en toi son esprit et il t'a donné un cœur de chair. Ça ne veut pas dire que c'est facile. J'ai l'impression que je vais avoir 26 rendez-vous cette semaine. Ouais, mais Yannick, tu sais. L'apôtre Paul dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Le combat avec le péché demeure. Le principe du péché demeure. Il est encore présent. Et pourtant, son esprit habite en nous. L'esprit de Dieu habite en nous. Il nous parle. Alors nous tombons. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous manquons encore à honorer le plan de Dieu dans nos relations de couple. Remarquez que Jésus vient juste de parler du pardon, du pardon, du pardon. Je pense qu'il préparait le prochain texte sur le mariage, le mariage, le mariage. Nous bronchons tous de plusieurs manières et des centaines de fois, Esther et moi, on va devoir retourner encore à Matthieu 18 puis dire « Seigneur, c'est plus que 7 fois, là. Tu veux encore que je pardonne, Seigneur. Par ton esprit, par ta grâce, parce que tu m'as pardonné, parce que tu m'as donné un cœur nouveau, avec larmes, Seigneur, je pardonne encore une fois. » En voyez-vous, c'est pas que tout est facile une fois que tu as cru en Jésus-Christ. Mais nous sommes une nouvelle créature. Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La loi de Dieu, nous pouvons la recevoir avec crainte et tremblement parce qu'on dit, « Seigneur, je suis tellement pécheur encore. Comment est-ce que je vais faire pour vivre ces choses? » Par la foi. De la même manière que j'ai cru en son pardon à la croix, je vais pouvoir vivre sa parole par la foi. C'est ça que Jésus fait ici dans Matthieu 19. Jésus confronte les pharisiens avec le fait qu'ils ne désirent pas être dans le plan de Dieu. Qu'ils sont en train de se servir de la loi de Dieu pour chercher tous les raccoins où ils n'auront pas à vivre les préceptes de la parole de Dieu. Oui, mais il y a ça qui est permis, puis si je pense qu'il y a une clause qui me permettrait peut-être de faire ça, ça c'est le religieux. Naturellement, la majorité des hommes sur la terre sont religieux. Avant de connaître Jésus-Christ, la majorité des gens ici, vous étiez des gens religieux. Vous ne disiez pas que Dieu n'existait pas et qu'il n'y avait aucune loi à respecter. Vous cherchiez simplement à faire le strict minimum. Certains d'entre vous, avant d'être à Christ, vous étiez sans Dieu, prétendant que Dieu n'existait pas. Vos passions étaient votre guide. Mais chacun d'entre nous, avant de connaître Jésus-Christ, c'est un cœur de pierre que nous avons à la place du cœur de chair qui est censé être là. Et ce que Jésus fait ici, c'est qu'il nous ramène au plan de Dieu. Pour certains d'entre nous, la réponse va être « C'est impossible, Seigneur. » Amen. À Dieu, c'est possible. Viens te mettre à genoux au pied de la croix. Viens croire en Jésus-Christ. Et là, tu vas pouvoir recevoir ces paroles. Le mariage ne sera pas simple. Je vous l'ai dit, je ne fais pas une théologie complète du mariage ici. On ne parle pas de tout ce qu'il y a comme ressource dans la parole pour bâtir un mariage heureux. Je fais simplement comme Jésus, vous ramener au début au plan de Dieu. Et Jésus est très formel ici. Sauf pour cause d'infidélité, aucun divorce n'est admissible. C'est ça le plan de Dieu. À celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, à celui qui n'a pas eu un cœur de chair, ses paroles sont pure folie. Il voit le mariage comme une prison. Il est étranger aux choses de Dieu. Mais si Dieu, dans sa grâce, t'a donné un cœur de chair, et si tu es malheureux actuellement, dans ton mariage, c'est difficile. Il y a des choses qui sont difficiles. Et tu contemples des projets comme de quitter ton épouse, de quitter ton époux. Je t'exhorte de tout mon cœur de ce cœur de chair qui pleure souvent à cause de ses péchés. Va vers un frère, va vers une sœur, pleurez avec elle, avec lui, va t'accompagner. Parce que Dieu a placé en toi son esprit et tu peux marcher par sa grâce selon les préceptes de sa parole. Afin que cette création nouvelle que nous sommes, l'Église de Jésus-Christ, brille dans cette ville. Brille dans cette ville. Pas parce que nous sommes sans péché, parce que nous avons été humiliés par notre péché et Dieu nous a donné un cœur nouveau. On va prier ensemble. Seigneur, tu es saint. Nous sommes pécheurs. Ta sainteté nous est étrangère, même si nous sommes chrétiens. Tu es tellement au-dessus de nos pensées. Tes voies, Seigneur, ne sont pas les nôtres. Nous demeurons pécheurs, même si nous avons cru en toi, Jésus. Ces paroles peuvent être dures à entendre, parce que nous avons toute une histoire personnelle, individuelle, qui peut être une histoire de joie ou une histoire de souffrance. Seigneur, tu es saint, mais tu ne nous as pas abandonnés. Au contraire, tu es venu marcher parmi les hommes. Tu t'es fait homme. Tu as subi les conséquences du péché en étant maltraité par tes créatures. Tu as subi dans ta chair physiquement les conséquences du péché. Et tu as été fidèle jusqu'à la croix. Tu as versé ton sang afin que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés, lavés, purifiés, et que nous puissions recevoir ton Esprit Saint, un cœur nouveau. Seigneur, je te prie pour ceux et celles dans cette salle qui vivent des moments difficiles dans leur relation de couple. Qui serait tenté de chercher tous les moyens par lesquels il pourrait s'éloigner un peu du cœur de ton plan, de ton design, Seigneur. Viens à leur secours. S'ils sont tes enfants, viens, Seigneur, les fortifier par ton Esprit Saint. Aide-les à comprendre tes projets pour eux dans ces moments difficiles, Seigneur. Aide ton Église à être là pour eux. Place à leur côté un frère, une sœur qui sera un bon conseiller, une oreille remplie de compassion, remplie de grâce et de tendresse. Comme toi, Jésus, tu savais écouter. Seigneur, je te prie pour ceux et celles ce matin qui seraient parmi nous et qui seraient tout simplement scandalisés par ta parole. Comme si tu avais de mauvais projets envers nous. Peut-être ne te connaissent-ils pas encore, Seigneur. Parle-leur. Viens faire ce miracle de la nouvelle naissance dans leur vie. Garde-nous dans ta grâce, Seigneur. Chaque jour où nous marchons avec toi fidèlement, c'est par ta grâce et par ta puissance que nous le faisons. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. On va terminer.